France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Une conversation littéraire sous le signe de la passion, du roman et des lieux où ceux-ci s'écrivent. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui la romancière Camille Laurence à l'occasion de la sortie de Ta promesse aux éditions Gallimard et l'essayiste Christophe Prado, auteur de l'essai Sur les lieux aux éditions Verdier. Bonjour Christophe Prado.
Bonjour.
Christophe Prado, vous êtes écrivain et essayiste, enseignant-chercheur à la Sorbonne, auteur de 3 romans, et vous publiez cet essai extraordinaire intitulé « Sur les lieux, 500 pages de bonheur pour nous » aux éditions Verdier. Et bonjour Camille Laurence.
Bonjour Mathias Sénard.
Camille Laurence, c'est un roman que vous nous proposez en ce début d'année, un roman qui laisse la bouche sèche et le cœur battant, intitulé « Ta promesse ». Mais tout d'abord Camille Laurence, est-ce que vous êtes sensible aux lieux ? Au lieu du roman, aux paysages dans lesquels vous promenez vos personnages?
À vrai dire, pas tellement, non. Je suis plutôt dans ce que Deleuze appelait les intensités immobiles, c'est-à-dire que au fond, je suis là où je suis et mes personnages ne sont pas très caractérisés dans leur environnement, non, ni d'ailleurs dans leur apparence.
En ce sens, vous ressemblez à votre narratrice, puisqu'elle cite justement cette phrase de Deleuze.
Oui, qu'elle n'aime pas voyager parce qu'elle a des pays profonds. Oui.
Alors, il y a une forme justement de mise en abîme, en tout cas de retournement de la fiction à l'œuvre dans Ta promesse. Vous explicitez dans le prologue le processus du texte à venir et la nécessité de sa fin.
Oui, alors c'est une espèce de mise en abîme comme j'aime bien en faire, c'est-à-dire qu'il y a une super narratrice d'une certaine manière qui explique ce qu'elle va faire avec sa narratrice et qui dit qu'elle commence par écrire la fin. Elle a déjà écrit la fin du roman et que ça va vers une révélation, une vérité.
Et alors je me demandais s'il y avait quand même un troisième niveau qui finalement est celui qui nous apparaît peut-être maintenant. Est-ce que vous-même, au moment où vous commencez ce récit, vous commencez par la fin?
Oui, ça fait déjà longtemps que je commence par la fin. Alors là, oui, j'ai commencé par la fin, absolument. J'ai écrit la dernière scène.
Et pas du tout par ce prologue?
Non, pas du tout. Voilà, parce qu'il y a un roman dans le roman. Donc voilà.
Il y a même plusieurs romans dans le roman.
Oui, il y a plusieurs romans dans le roman, oui. Oui.
Mais là, c'est vraiment de la fiction, alors que vous nous aviez habitué quand même. Enfin, je ne sais pas.
Vous allez peut-être
me contredire.
Non, pas du tout. Non. C'est du roman. Oui, c'est de la fiction.
Alors que, justement, vous êtes aussi célèbre pour votre façon de vous mettre en fiction et de raconter ce qu'on pourrait appeler un peu vulgairement votre vie. Et là, on a l'impression que c'est quand même, en grande partie, la vie d'une autre.
Oui, c'est vrai, mais je joue beaucoup là-dessus dans tous mes romans, hein, sur l'instance narrative. Ça n'est jamais tout à fait moi, hein, c'est-à-dire que j'ai une conception de l'autofiction qui n'est pas forcément celle qu'on entend en général, qu'on comprend en général. C'est plutôt un paysage mental, moi, l'autofiction, c'est toujours mon paysage, c'est mon livre intérieur, pour reprendre le terme de Proust. Ensuite, ce livre intérieur, je l'exprime dans des formes romanesques qui sont fictionnelles.
Oui, tout à fait, mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de fiction, en tout cas une part d'invention, peut-être parce que le processus de narration doit lui-même plus à ce qu'on attend dans la fiction, c'est-à-dire l'enquête peut-être, tout simplement.
Oui, bien sûr, qui est une forme que j'apprécie particulièrement. Je suis très sensible aux intrigues policières, j'en ai beaucoup lu. J'aime cette idée qu'on ait envie de connaître la suite, en fait, qui est tout de même un des plaisirs de lecture. Ce n'est pas le seul, mais pour moi, c'est important. Donc l'enquête, ça a été le moteur de ce roman.
Vous écrivez « Un roman ne doit pas sacrifier à la vérité, il perdrait sa raison d'être, qui consiste à s'y risquer, quelle qu'elle soit. Si vous n'écrivez pas pour la chercher, n'écrivez pas. Et si vous ne lisez pas pour l'approcher, à quoi bon ?»
Oui,
oui. Oui, mais en même temps, vous faites l'inverse. C'est-à-dire que ce roman invente sa propre vérité, une vérité romanesque qui est d'un autre ordre.
Oui, mais à l'intérieur de ce roman, la narratrice cherche la vérité des êtres, la vérité de ce qu'elle vit. C'est une enquête qui a pour but d'élucider une part de réel.
Et cette question de la promesse qui est déjà là dans le titre, dont on va voir, on va essayer de ne pas dévoiler l'intrigue, mais en tout cas d'interroger certains de ces endroits. Et justement, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle un peu dans le monde de l'université, cette espèce de pacte narratif, est-ce que c'est pas aussi une forme de promesse finalement qui est là dans le titre?
Ah ouais, je joue beaucoup sur ce mot-là, oui, sur ce qu'on attend en fait d'un roman quand on lit, ce qu'on espère trouver, c'est aussi une vérité sur soi-même, sur le monde, sur ce qu'on vit. Et c'est aussi un roman sur la littérature.
Oui, mais aussi peut-être sur ces questions de ce serment. Qu'est-ce que c'est que le serment que l'on se fait, non seulement quand on écrit, c'est-à-dire cette volonté peut-être d'aller jusqu'au bout, comme disait Blaise Cendrars, en tout cas d'être fidèle à cette promesse qu'on s'est faite de raconter cette histoire du mieux qu'on le puisse.
Oui.
Mais aussi, il y a cette promesse amoureuse qui est un peu au cœur du texte.
Oui, ça, j'interroge la question de la promesse parce que un de mes grands sujets romanesques, c'est l'illusion amoureuse. Et donc, la phrase de Benjamin Constant dans son journal, dans un de ses journaux intimes, « Tout promet et rien ne tient ». Voilà, je fais ce parcours d'une promesse initiale et comment cette promesse n'est pas tenue, mais peut-être, et toutes les promesses, d'ailleurs aucune des promesses dans ce roman n'est tenue. C'est une réflexion aussi sur la fiction, le roman qu'on écrit quand on aime. Le roman qu'on écrit sur l'autre, le roman qu'on écrit sur sa propre histoire.
Oui, comme on dit, histoire d'amour, raconter une histoire d'amour, c'est ce que vous faites.
C'est aussi se raconter une histoire.
Voilà. Oui, c'est ça,
ou
c'est
se faire un film, comme on dit.
Se faire un film. Oui. Alors là, elle s'appelle Claire,
oui.
Il s'appelle Gilles. C'est elle qui va nous, pas que elle, mais en grande partie, nous raconter cette histoire terrible qui s'ouvre sur une vision presque. De cette femme assise sur la souche, en tout cas ce qui reste d'un arbre. Mmh. Alors l'arbre est extraordinairement important,
oui.
C'est d'ailleurs un des aspects magnifiques du livre, mais on va pas en parler.
Non.
Et voilà, ça fait un petit teaser, il faut lire le livre pour savoir l'histoire de cet arbre et ce qu'elle fait là. Mais en tout cas c'est un peu comme dans les romans policiers, entre guillemets, ou les bons romans, tout simplement. Chaque élément, on va se rendre compte petit à petit qu'il est extraordinairement signifiant, comme si vous aviez déjà tout manipulé, pour reprendre des termes qui sont dans le livre, et tout préparé. Comment est-ce que vous avez fait ça ?
Oui, tous les romanciers sont de grands manipulateurs, mais c'est un peu comme dans une mise en scène de théâtre, quand tout d'un coup, dans la mise en scène, vous voyez qu'il y a, je sais pas, une corde ou un arrosoir, vous pouvez être sûr qu'ils sont pas là juste pour le décor, c'est qu'ils vont avoir une importance dans la mise en scène, dans ce qu'on va voir plus tard. Et c'est la même chose pour les romans. Je construis mes romans à partir de signes, de détails que j'agence et qu'on va retrouver. C'est un peu comme une frise. Il y a des choses qui reviennent. Bien sûr, ça pour moi, c'est tout l'art du roman.
Alors, ce qui est d'autant plus troublant, c'est qu'on parlait de manipulation, mais Gilles, dont je viens de dire le nom, est aussi, même professionnellement, une forme de manipulateur, puisque son métier, au départ en tout cas, ce sont les marionnettes.
Oui. Oui, j'ai voulu interroger la manipulation, mais aussi comment on devient soi-même manipulateur, éventuellement par un récit de son enfance, mais aussi interroger tout simplement la part de manipulation qu'il y a dans toute histoire d'amour, et peut-être même dans toute histoire, en fait, dans toute relation humaine. Mais évidemment que la romancière, puisque Claire est romancière, la romancière elle-même, du fait même qu'elle écrit et qu'elle agence tous ces éléments, est aussi une manipulatrice, mais pas exactement dans le même but.
Pas de la même façon,
ben non.
Et puis surtout...
la manipulation peut être perverse ou non.
Ou non. Et le récit de ta promesse, Camille Laurent, c'est aussi qu'on va apprendre comment cette femme, Claire, petit à petit, voit tout ce... à quoi ou en quoi elle croit s'effondrer autour d'elle, morceau après morceau.
Ah oui, oui, c'est une sorte de destruction progressive de tout ce qu'elle avait bâti, qui sont finalement presque comme des châteaux en Espagne, c'est-à-dire il ne reste rien, en effet, de ce qu'elle a construit, mais parce que c'est la fiction amoureuse.
Mais justement, alors, ce qui est terrible pour elle, c'est que pourtant la fiction, a priori, c'est son oui. métier.
Mais oui, mais on se laisse prendre à l'illusion. Je crois que c'est ça le. C'est comme les marionnettistes. Enfin, ils s'occupent du théâtre de marionnettes, personnage oui. masculin, Gilles. Voilà, à un moment, on se laisse prendre comme quand on est au théâtre ou quand on lit un livre. On se laisse prendre par l'histoire. Et pour moi, il n'y a pas tellement de différence entre vivre une histoire d'amour et lire un roman très prenant. C'est-à-dire qu'on vit le roman, on vit l'histoire, et on y croit. C'est la suspension, la fameuse suspension de l'incrédulité.
Et oui, et vous pensez qu'une, pour vous, une histoire d'amour, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y aurait une espèce de pacte amoureux
oui.
qui voudrait dire...
J'y crois, voilà, je décide d'y croire. Enfin, je ne le décide pas, mais je suis prise par tous les signaux positifs, par toute la beauté des mots que
alors, Gilles,
qui sont
c'est,
dits.
Oui, c'est ses voilà. avantages, c'est alors son sourire, par exemple, ça revient,
oui.
ça revient beaucoup.
Oui.
Et puis il a des belles chemises, il est
voilà, il est élégant, il est charmant, il est séduisant.
Ça, c'est pour le début.
Oui, c'est pour le début, voilà, bien sûr, c'est pour le début. Et puis ensuite, les signes s'inversent d'une certaine manière. Et puis ça passe beaucoup, la révélation qu'il y a autre chose derrière ces apparences passe beaucoup par le langage, par le fait que le langage du début, qui est le langage amoureux stéréotypé, et je t'aime, et mon amour, et ma chérie, et devient soudain une chose assez pauvre, et que les clichés ressortent alors qu'au début, elle se dit, finalement, tous les amoureux ont le même langage, c'est normal.
Mais est-ce qu'on aime de la même façon à partir du moment où on observe et où on décode, comme Claire, tous ces mots d'amour-là, justement ? On est à la fois presque présente, mais en même temps observatrice de sa propre histoire d'amour.
Alors, je pense qu'il y a un moment où on vit sa propre histoire d'amour. Là, c'est une ressaisie, je dirais presque... d'essence testamentaire, c'est-à-dire c'est ce que Duras écrivait magnifiquement, on écrit sur le corps mort de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a le moment où Claire vit son histoire d'amour, ensuite cette histoire se détruit, se délite, devient quelque chose d'affreux, et puis elle ressaisit, enfin c'est justement la découverte d'une vérité qu'elle n'avait pas vue et qu'elle peut explorer par l'écriture, par la ressaisie...
Oui, d'ailleurs, tout ça est annoncé dès le départ, puisqu'on vous dit l'intérêt du bonheur est à peu près inexistant, on n'écrit pas sur le bonheur. Voilà. Bon, là, c'est le cas, hein. On n'écrit pas du tout sur le bonheur.
Si, quand même. Un petit peu au début, mais
exactement.
Si.
Mais justement, le bonheur amoureux, alors on va rentrer par là, peut-être un peu plus dans les détails des personnages et du récit. Ça commence, par exemple, si je me souviens bien, c'est un dîner au bord de la mer. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Justement, l'endroit, la beauté, le calme, il est parfait,
oui,
elle est parfaite.
Oui, le dîner est parfait, tout est parfait, oui. Et c'est la scène de la promesse, c'est le moment où ils échangent une promesse.
Oui, alors promesse qui est un peu doublement ratée quand même, parce que
oui.
Mais je veux être dans ta vie, pas dans tes livres.
Oui, donc lui, oui, lui fait promettre de ne jamais écrire sur lui. Et puis la promesse qu'elle lui demande de faire, on la connaît beaucoup plus tard.
Oui,
dans l'histoire.
Mais cette possibilité, justement, on va comprendre, c'est aussi une des... Je pense que c'est pour ça que aussi le roman s'intitule ainsi, Ta promesse, c'est de voir comment est-ce qu'on en arrive là, justement. Voilà, comment est-ce qu'on peut décider de briser ce qu'on avait, ce pacte qu'on avait ensemble. Et vous construisez le roman comme une instruction au sens presque judiciaire,
oui.
une enquête de témoignage, du moins en partie, ce qui vous permet aussi de changer... de voix narrative.
Oui, je voulais que ce soit une sorte de roman choral, enfin, oui, on peut dire ça comme ça, parce que c'est pour ça aussi que j'ai choisi la forme de l'enquête, c'est-à-dire que Claire parle à son avocate Et la juge ou l'avocate convoque des témoins, en fait, qui racontent leur version de l'histoire, comment ils ont perçu aussi bien Gilles que Claire. Alors, ce sont des amis de Claire ou de Gilles qui viennent apporter un éclairage différent.
Oui, parfois très très différent.
Oui, parfois très différent, mais oui, c'était tout l'intérêt, bien sûr. Parce qu'on ne connaît jamais l'autre, chacun a sa vision d'autrui.
Mais justement, voilà, c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que c'est à la fois un personnage qui est narratrice, écrivaine, mais qui en même temps, vous réussissez à la faire, à ce qu'on la comprenne par l'extérieur. C'est-à-dire, elle est non seulement elle est la narratrice de sa propre description par autrui.
Oui. Oui, c'est ma construction romanesque. Oui.
Et pour vous, à quel moment ça commence? Est-ce que Claire, comment est-ce qu'elle apparaît? C'est par sa façon d'écrire, elle? Parce qu'on va avoir aussi, elle nous apparaît aussi parce qu'elle écrit, hein, plusieurs façons.
Oui, oui.
Et, est-ce que c'est sa voix à elle? Comment est-ce que ça commence un roman comme Ta promesse?
Comment est-ce que ça commence? Par la fin. Comment est-ce que ça commence
Parce que c'est extrêmement construit, on l'a dit, il y a énormément d'éléments. Est-ce que tout ça, vous le projetez d'abord à plat? Vous avez tout dans la tête?
Je vous ai dit, je commence par la fin. Et
mais par la fin, comme un endroit à atteindre?
Oui, comme un endroit à atteindre, c'est-à-dire une scène. Et ensuite, je ne sais pas, je n'ai pas de plan, je ne sais pas par où je vais passer.
D'accord.
Et ça s'élabore au fur et à mesure. Par exemple, les différents témoins, les personnages sont arrivés quand j'en avais besoin, quand tout d'un coup j'avais besoin que quelqu'un vienne contredire Claire ou vienne apporter une contradiction, oui, c'est chemin faisant.
Camille Laurence, il y a quelque chose qui m'a fasciné dans Ta promesse, c'est la vision de ce que c'est que le mensonge, qui en fait n'apparaît jamais directement. C'est-à-dire qu'il est là, mais il apparaît a posteriori, alors qu'on pourrait d'ailleurs ne jamais s'en rendre compte. Il y a énormément de détails dans le texte, dont Claire n'aurait jamais eu conscience, sans doute, s'il n'y avait pas eu ce procès.
Oui, en toute modestie, ma référence proustienne, c'est-à-dire tout d'un coup, une parole, un signe s'interprète autrement, on voit l'envers de ce signe ou de cette parole et c'est amené de biais effectivement à un autre moment et d'ailleurs je pense que quand on lit on peut en rater certains, on ne se dit pas forcément tiens mais 100 pages avant c'était autre chose mais le roman est construit sur cette inversion des signes, oui.
Et ça se joue à plusieurs niveaux parce que même elle-même quand Claire relate un événement passé, elle nous donne en italique ou entre parenthèses souvent son sentiment de vérité entre guillemets.
Oui. Pour moi, il y a aussi une dimension un peu comique, c'est-à-dire il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on pense et j'aime bien confronter les deux. Parfois, c'est assez drôle.
Donc le roman s'ouvre sur une scène où après une scène de violence où on découvre Claire, on l'a dit, hein, ensanglantée. On va très vite s'apercevoir que il y a une victime aussi qui est Gilles Fabian et un peu peut-être le processus du livre, c'est de nous faire comprendre à quel point ce Gilles Fabian est un être atroce. j'ai eu cette sensation en le lisant.
En tout cas, là aussi, je voulais inverser un peu la notion de victime, puisqu'au début, c'est lui qui est victime, puisqu'effectivement, elle l'a frappé à la tête. Il est dans le coma, donc c'est objectivement lui la victime. Et le roman tend à retracer l'histoire pour montrer que la victime n'est pas forcément celle qu'on croit.
Oh non, alors c'est pas du tout du même ordre en tout cas.
Non.
Mais néanmoins, est-ce que c'était ça aussi enfin je sais pas, une forme de pas de projet puisque c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, est-ce que ce personnage, cette vision d'un mal, enfin en tout cas du mal qu'on peut faire à autrui dans une relation, est-ce que c'était ça qui vous a intéressé?
C'est la question du mal, mais du mal dans la vie ordinaire, pas du mal avec un grand M. Mais de la façon dont on peut, d'ailleurs pas forcément volontairement, ou en tout cas pas forcément en maîtrisant toutes ses intentions, la manière dont on peut faire du mal à quelqu'un et même le détruire. Enfin, en tout cas, être en situation de pouvoir le détruire par une sorte de... d'emprise, de méchanceté, de cruauté.
C'est ça qui fait qu'on lit le livre d'une façon qui est quelque chose de haletant, au sens où on a, oui, on découvre à quel point justement le mal agit. C'est-à-dire que oui. Ce Gilles se révèle de plus en plus. Alors, et le doute qu'on a, et alors peut-être vous pouvez justement éclairer, mais doute, est-ce que pour vous, c'est un personnage qui est conscient du mal qu'il fait ou pas?
Ah ben c'est la grande question du roman et moi-même je ne peux pas vraiment répondre. Il y a une opacité de ce personnage qui demeure. Je pense à propos de paysage justement à Proust qui dit à un moment comment est-ce qu'un peintre peut peindre un paysage dans le brouillard? Alors il ne peut pas montrer ce qu'il voit puisqu'il ne voit rien, il ne peut pas montrer ce qu'il ne voit pas puisqu'on ne peut pas peindre ce qu'on ne voit pas. Il doit peindre qu'il ne voit pas. C'est un petit peu ça dans le roman, d'une certaine manière, je peins ce que je ne sais pas. C'est-à-dire que ça reste un peu mystérieux et opaque, ce personnage est très opaque. Je ne sais pas, mais c'est la grande question que se pose la narratrice, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été vrai, qu'est-ce qui est intentionnel, est-ce qu'il sait qu'il fait du mal C'est la grande question.
On va prendre un ou deux exemples plus précis pour que les auditeurs aient une idée du texte. Essayez d'en dévoiler le moins possible quand même, parce qu'il est quand même question de suspense là-dedans un peu. Par exemple, question de la jalousie, parce que la question de la jalousie, c'est une des grandes problématiques de l'amour. Et dans ta promesse, une des occasions de jalousie de Gilles lui-même, c'est la possibilité qu'il écrive un livre à son tour.
Oui.
Et là, il y a quelque chose de très fort qui se joue et on se rend compte que ce type est absolument horrible. Pardon de me dire, mais... non, il y a simplement, dans ce rapport qu'ils ont autour de ce livre, oui. On voit tout ce qui se joue chez lui, justement, et on hésite à savoir s'il est justement conscient de ce qu'il lui fait quand il la rend jalouse, en fait, en réalité, avec ça. Et que lui-même est tellement jaloux d'elle.
Oui.
C'est réciproque, là.
Oui, c'est ça. Mais on pourrait dire que dès l'instant où il lui fait promettre de ne pas écrire sur lui, alors que elle est connue pour écrire surtout des textes sur sa propre vie, on peut dire que dès cet instant-là, il y a une forme de manipulation, c'est-à-dire que elle, d'une certaine manière, doit renoncer à écrire pour que lui puisse prendre la place, en fait. Là, c'était aussi, pour moi, l'occasion de réfléchir, parce que je l'ai beaucoup observé autour de moi, des amis artistes, écrivaines. Ça reste, en tout cas, dans ma génération, j'espère que ça s'arrange pour les plus jeunes, ça reste quand même un vrai problème, la rivalité entre les hommes et les femmes dans la création.
Mais là, c'est même plus pervers que ça, parce qu'il y a quand même un côté pervers de sa part, qui est que petit à petit, ou en tout cas, c'est comme ça qu'on lit.
Oui, mais c'est comme ça que je l'ai écrit.
c'est de l'amener d'une façon extrêmement subtile, elle, à s'anéantir pour lui, en réalité. Oui. Comme si il lui, même au moment où il écrit son mémoire pour l'UNESCO, il y a un moment voilà, où il ambitionne des choses qui vont d'ailleurs réussir. Oui. Et tout ça, c'est grâce à elle.
Oui.
Elle ne se rend pas compte qu'en fait, tout ça, c'est pour mieux avoir la possibilité de s'éloigner d'elle et de la tromper par ailleurs. Enfin, c'est horrible.
C'est ce qu'on appelle la perversion, oui. C'est jouir de faire du mal à l'autre, peut-être que un vrai pervers ne peut pas s'empêcher de cette jouissance, ne peut pas...
Alors peut-être que je suis extrêmement naïf, mais moi ce qui me semble justement assez... d'aller même au-delà d'une simple perversion chez ce Gilles, c'est que ça se projette dans le temps d'une façon terrible. Alors il n'en est pas entièrement responsable, mais cette possibilité de se projeter à quelques années en avant, ou d'empêcher de faire ceci ou cela parce qu'on sait que dans l'avenir...
Oui, c'est très retors et c'est très... difficile à concevoir quand on n'a pas cette pathologie, hein, parce que c'est une pathologie. Enfin bon, j'ai tendance à expliquer cela d'une façon psychanalytique. Voilà, c'est une pathologie. Et d'ailleurs, le roman va vers une forme de, quand même, de, pas d'explication, mais peut-être de vagues justifications de ce qu'il est, parce que ça se termine par des scènes d'enfance, aussi bien d'elle que de lui. Et voilà, moi je crois beaucoup, malgré tout, à un noyau dans l'enfance qui peut expliquer ensuite le mal qu'on fait ou l'impossibilité qu'on a d'aimer, parce que finalement c'est une impossibilité d'aimer. La perversion, c'est ça. Les pervers, c'est des gens qui n'ont aucune empathie et qui donc ne peuvent pas aimer. Et le degré supplémentaire, c'est qu'ils ne peuvent pas aimer, mais qu'ils ne vivent que du mal qu'ils font aux autres.
Oui, mais je suis d'accord avec vous, évidemment, mais en même temps, quand on lit le texte, on se dit qu'il y a d'autres personnes qui ont été avec Gilles, dont on a le témoignage, et notamment une jeune femme de 26 ans, pour qui c'était un homme absolument parfait.
Comme avec elle au début.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a un éternel recommencement du même schéma, début idyllique et c'est peut-être le schéma amoureux classique.
Oui, mais même aussi, vous évoquiez l'enfance, mais il y a aussi une relation aussi avec les parents, c'est-à-dire que même les parents de Claire, enfin bref, on sent que tout ça est aussi construit dans une forme de presque de généalogie des personnages.
Oui. Mais ça, justement, c'est mon attachement à l'explication analytique, c'est-à-dire que ça ne vient pas de rien, c'est effectivement une généalogie, comme vous dites, oui.
Et même de rapports mère-fille à peine dévoilés où toujours la mère presque reproche à Claire en lui disant mais c'est presque c'est ta faute. Enfin,
oui.
Et Claire Lancel, alors elle, on ne sait pas. On se rend compte qu'elle aussi, elle se dévoile à elle-même par l'écriture, ce procès. Elle apprend des choses et elle comprend aussi des choses sur elle-même. Et on a aussi des expériences presque d'écriture qui sont liées à cela. Et notamment un rapport à une forme de poésie, qui est un peu comme quelque chose devenait extrêmement intime. Comme s'il y avait une forme de vérité dans cette poésie qui ne pouvait s'exprimer que là.
Oui, là je voulais montrer quelque chose là pour le coup que dont j'ai fait moi-même l'expérience, qui est quand on commence à écrire un livre et quelque chose d'intime, on ne sait pas forcément quelle forme cela va prendre. Et là, dans l'expérience de Claire, elle fait des essais, en fait, c'est une sorte de bricolage littéraire, et elle est amenée à faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait avant, c'est-à-dire écrire des poèmes. Alors c'était surtout, ce qui m'intéressait dans ces poèmes, c'est l'emploi du « on », c'est-à-dire une façon de se dépersonnaliser. Elle parle d'elle en disant « on », et... Voilà, c'est un pronom auquel je suis très très sensible dans la langue française. On, alors là, j'avais envie de le mettre en valeur.
Et j'en cite un, si vous me le permettez, un de ces fins de paragraphe qui sont des poèmes, entre guillemets. La vie est ineffable, c'est ce qui est triste. Quand on commence un livre, on n'est pas dupe. Comme au commencement de l'amour, on sait qu'on n'y arrivera pas.
Ben oui, c'est-à-dire que le commencement contient sa fin. Alors, on peut le dire du roman, mais il y a une sorte de mélancolie qui frappe peut-être avec l'expérience. C'est peut-être pas le cas quand on est jeune, mais une sorte de mélancolie qui...
Mais elle est immédiate, cette mélancolie, au moment où ça commence. On sait qu'on n'y arrivera pas.
Ben elle est,
on
elle
a
est...
des éclairs comme ça.
Elle est présente. Mais c'est pour reprendre la métaphore de la pièce de théâtre. On peut être pris par une représentation théâtrale, mais en même temps, on sait bien que ça va finir, que tout ça, c'est du théâtre, et que dans 2 heures, la représentation sera finie.
Et le marionnettiste pervers, finalement, rentre chez lui.
Voilà.
Vous citez Faulkner. la littérature ne sert pas à mieux voir, elle sert seulement à mieux mesurer l'épaisseur de l'ombre.
Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la citation de Proust. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on voit, c'est pas une élucidation complète. Ah, ça y est, j'ai compris le monde, j'ai compris la vie, j'ai compris l'amour. C'est juste, on comprend que tout ça est très, très, très obscur et très mystérieux et que ça le reste. On éclaire un tout petit peu, mais ça reste très, très opaque.
Est-ce qu'il n'y a pas une vengeance aussi un peu dans l'écriture? Un peu une forme de revanche?
Une revanche, c'est-à-dire que l'écriture, c'est tout ce qui reste. C'est ça qui est difficile à faire comprendre parce que souvent on entend règlement de compte, etc. Alors qu'en fait, c'est juste que quand on écrit sur le corps mort de l'amour, heureusement qu'on peut écrire, parce que sinon... S'il y a juste le corps mort de l'amour et qu'on n'écrit pas, on est mal.
Ah bon? Qu'est-ce que ça change en vrai?
ça change tout. Ne me dites pas, vous ne le savez pas.
Non, mais comme vous parlez aussi d'amnésie.
Oui.
Est-ce que ça aussi, c'est pas la solution pour éviter le corps mort de l'amour?
Oui,
le remords.
Encore faut-il pouvoir.
Oui.
Encore faut-il pouvoir être amnésique.
Oui, ce dont on n'est pas sûr d'ailleurs.
Non, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr qu'il soit amnésique, oui. Ouais. Parce que comme c'est un homme qui fait semblant, voilà, il peut faire semblant de ne pas se souvenir.
Dans ta promesse, il y a aussi, avant de passer à des questions de lieu et de pèlerinage, une question assez troublante qui est celle d'un rapport à. Très actuel au podcast, à ce que c'est que possibilité de féminisme engagé, à la manipulation des réseaux sociaux. Et alors c'est pas du tout
pas le sujet,
mais c'est là quand même.
Oui.
Et ça c'est quelque chose aussi qui vous a touché, blessé.
J'ai fait cette expérience. Moi j'avais déjà dans celle que vous croyez, j'avais exploré les réseaux sociaux, Facebook et voilà, tout ces ça m'intéresse beaucoup la façon dont se modifient les rapports humains et dont on peut être mais vraiment couvert d'injures sur les réseaux sociaux, c'est j'avais envie de que ce soit présent, oui, parce que je pense que c'est aussi un mode de relation contemporain qui est très très cruel en fait.
Et une des villes, alors il y a la presqu'île de Gien et la ville d'Hier, qui est un des lieux très présents très importants de ta promesse, mais aussi Toronto. Et j'aime la description que vous en faites, on a l'impression que c'est pas très hospitalier comme.
Oui, c'est étonnant. On m'a dit ça. Moi, je ne l'ai pas écrit comme inhospitalier, mais mais c'est vrai, c'est ce qui m'est renvoyé en fait assez souvent. En tout cas, je voulais faire le contraste entre cette ville, vraiment c'est le milieu urbain, et puis il y avait la question de la langue, mais par opposition au lieu de la promesse, qui effectivement c'est French Riviera.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Alors, Christophe Prado, vous vous intéressez aux lieux, sur les lieux, mais peut-être pas les lieux auxquels on s'attend, c'est-à-dire pas tellement les lieux en tant que directement personnage de roman, c'est-à-dire c'est pas forcément la ville de Toronto ou la presqu'île de Gien, mais c'est plutôt le lieu comme forme de pèlerinage littéraire et comment est-ce que le lieu va devenir quelque chose d'autre. Et dans ce magnifique... parcours historique, chronologique qui est sur les lieux, on va passer de Constantinople d'un côté, à Istanbul, à la fin du texte, dans une promenade. Alors vous vous défendez de ça, vous dites non, il s'agit pas de géographie littéraire, c'est pas tout à fait la même chose. Mais néanmoins, c'est aussi reconstituer un déplacement assez presque magique entre une époque, une autre, hier, aujourd'hui, en passant d'un endroit à un autre.
Oui, alors comme dans le livre de Camille Laurence, d'une certaine façon, la fin est dans le commencement, puisque nous sommes d'emblée à Istanbul, même si cette ville s'appelle Constantinople au début du livre. Et effectivement, c'est une trajectoire circulaire qui est à la fois spatiale et temporelle, puisque c'est une sorte d'histoire d'une pratique culturelle qui est aussi ancienne que la littérature à bien des égards, le pèlerinage littéraire, mais qui s'est intensifiée au XVIIIe siècle. Et j'essaie de me demander pourquoi cette pratique s'est intensifiée, puis quels en sont les enjeux existentiels, peut-être même spirituels à certains égards, et également de prendre appui sur cette pratique. Et c'est en cela que je considère que c'est un livre qui peut, par certains aspects, relever de la géographie, enfin de la géocritique, mais qui j'essaie néanmoins d'utiliser ce phénomène massif, parce que ça concerne vraiment beaucoup de lecteurs. Tous les lecteurs sont pas sensibles à cette résonance des lieux, mais un grand nombre d'entre eux, pour questionner ce que le roman a fait à la littérature en devenant le genre que j'appelle cardinal, le genre majeur. Il a modifié en fait notre rapport au livre.
Oui, même plus que ça, et on voit même notre rapport justement au lieu qui nous entoure. Ça a transformé, voilà. C'est un peu comment le parcours de Sur les lieux, c'est comment est-ce que le roman vient habiter la vie. Comment est-ce que le roman s'invite dans la ville, dans les endroits et dans les lieux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le moment où le roman est devenu le genre cardinal, c'est le moment où il a inventé ce que j'appelle un romanesque de proximité. C'est-à-dire qu'il a les histoires ont été de plus en plus souvent et de plus en plus exclusivement situées dans les lieux mêmes qu'habitent les lecteurs. Ce qui, évidemment, change complètement la relation que l'on peut avoir avec les lieux de la fiction, puisque désormais, il est possible d'aller les rejoindre. Et même parfois, on découvre que l'on habite dans la même maison que le personnage dont on est en train d'épouser la vie.
Camille Laurence, est-ce que vous avez des lectrices ou des lecteurs qui s'intéressent à des questions très précises dans vos romans, qui vont justement sur les traces de vos personnages ?
Oui, ça m'arrive, oui. Oui, qui me disent être allés dans tel ou tel lieu, ou qui me demandent où se trouve tel village. Ils ont regardé dans un atlas, ils n'ont pas trouvé. Je leur dis, c'est normal, il n'existe pas. C'est un autre nom.
Alors justement, Christophe Prado, l'écueil, ce sont les lieux qui n'existent pas.
Oui. Mais les lecteurs sont souvent extrêmement habiles et arrivent à inventer une localisation qui n'est pas précisée dans le livre. Et donc il y a plein de lieux qui sont aujourd'hui des lieux qui non seulement sont visités par les lecteurs, mais qui sont inscrits dans une logique de patrimonialisation, qui sont devenus des musées, mais qui sont des lieux qui ont été assignés à un moment donné par des lecteurs qui ont décidé que c'était la maison de tel ou tel personnage.
Vous voyez, je serais peut-être un peu méchant pour l'espèce de pèlerinage que nous sommes en train de faire, mais ça me donnera au moins la garantie de la sincérité. C'est que le Combray que nous allons voir, à savoir Lillier, apparaît évidemment beaucoup plus petit, pour ne pas dire beaucoup plus mesquin, il faut bien dire les choses comme elles sont, beaucoup plus terne, que l'extraordinaire élaboration que nous trouvons, n'est-ce pas, dans la recherche. Pour ne pas dire la surpuissance de la littérature, de l'acte, de l'énergie littéraire qui a fait de ce lieu, qui est en réalité un lieu assez banal, petitement français, l'un des grands lieux mythiques de la littérature, qui est maintenant la littérature universelle, puisque Proust est connu absolument partout, n'est-ce pas ? Ce qui fait qu'en réalité, pour écrire avec puissance, il vaut mieux se souvenir que venir voir, n'est-ce pas, je dirais. Ce serait le paradoxe que j'énoncerais. Il vaut mieux avoir vu que voir.
Nous venons d'entendre Roland Barthes en 1978 au micro de Jean Montalbetti à Illier, en pèlerinage, donc à Combray, ou en tout cas dans une partie de Combray, Christophe Prado.
Oui, c'est une série de, effectivement, de pèlerinages qu'accomplit Barthes, d'abord sur les lieux parisiens de la recherche et de la vie de Proust, et puis ensuite à Hélier. Et c'est une émission donc diffusée sur France Culture qui est contemporaine du dernier cours de Barthes au Collège de France, la préparation du roman. Donc il l'évoque dans son cours au Collège de France, cette expérience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il, en revenant sur cette expérience, il insiste sur la vertu de la déception. Parce que là, il fait sien, en fait, la doctrine proustienne du pèlerinage comme idolâtrie, et donc il vaut mieux, effectivement, se souvenir que d'aller voir. Mais il considère, en revenant sur cette expérience dans son cours, que la déception est une expérience qui mérite d'être vécue. Cet écart entre l'amplitude de l'espace dans le souvenir et puis l'étroitesse mesquine du lieu que l'on peut visiter.
Camille Laurence, est-ce qu'il vaut mieux aller voir ou se souvenir? Est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous êtes du genre à aller voir?
Non, pas du tout. Non. D'ailleurs, j'ai appris dans le livre de Christophe Prado quelque chose qui m'a beaucoup intéressée à propos de moi-même. Il est question de Calvin qui dit oh, les pèlerinages, c'est pas bien, il faut pas aller. Voilà. Ce qui compte, sont les écritures. Et je me suis dit, ben voilà, parce que moi, je suis d'éducation protestante. Je me suis dit, voilà, j'ai compris, ça, c'est Calvin je suis imprégnée de calvinisme. Mais alors, en revanche, je fais une exception pour Combray. Enfin, il y est Combray. C'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, c'est très, très bien développé dans le livre de Christophe Prado. C'est quand même un lieu réel qui prend un nom de fiction. C'est formidable. Mais c'est vrai qu'à Combray, je suis d'accord avec Barthes. Enfin, j'adore ce lieu. Mais il y a une déception. En effet, c'est tout petit. Quand on a lu la recherche, on se représente pas les lieux comme ça.
Christophe Prado, sur ce pèlerinage proustien, c'est d'autant plus, disons, décevant sans doute que Proust change Combray d'endroit dans la fin de la, en tout cas dévoile la position géographique de Combray dans la fin de la recherche dans le temps retrouvé, et ça n'a absolument rien à voir avec l'endroit où se trouve aujourd'hui il y est Combray.
Oui, en fait il y a eu deux localisations de Combray dans la recherche. Dans la première édition chez Grasset en 1913, le village était situé près de Chartres, et donc la situation géographique de Combray était compatible avec celle d'Illiers. Et lorsqu'on se rend à Hélier, il y a certains éléments topographiques qui nous permettent de reconnaître notre expérience de lecture. Mais c'est un lieu qui est composite et qui est également formé de souvenirs qui sont attachés plutôt à la maison des grands-parents maternels de Proust à Auteuil, qui était une maison plus grande. Voilà. Et après la guerre, dans la seconde édition de Du côté de chez Swann, qui est contemporaine de la publication du deuxième tome, D'Allons des jeunes filles en fleurs, Proust a décidé de modifier la localisation du village, qui désormais se situe en Champagne, près de Laon et de Reims, pour des raisons qui sont tout à fait évidentes et qu'il expose dans une lettre à Gallimard, c'est pour inclure la guerre dans le roman, puisque désormais le village est situé dans la zone des combats.
Même si ça, il en parle que bien plus tard, évidemment, puisque c'est à toute fin de la recherche, si je ne me trompe pas.
Alors, en fait, pour le lecteur extrêmement attentif, il y a dans Du côté de chez Swann, dans la version 1919, mention de Laon et de Reims. Donc, le déplacement est fait, est opéré.
D'accord.
Mais il faut vraiment être attentif. Et ce n'est, parce qu'il y a assez peu d'éléments qui situent le village dans la géographie française. Enfin, il faut vraiment être attentif. Et ce n'est que dans le temps retrouvé, effectivement, que cette situation en Champagne est exploitée pour décrire, de façon d'ailleurs assez rapide, en quelques pages, la destruction de Combray. Et cette destruction de Combray, c'est un paradoxe que j'ai essayé d'explorer dans le livre. Assez peu de lecteurs de Proust s'en souviennent. Alors, pour plein de raisons. D'une part, parce que tous les lecteurs de Proust ne lisent pas la recherche jusqu'au bout. D'autre part, parce que l'assimilation entre le narrateur narrateur, et puis Proust lui-même était assez largement opéré, ce qui fait que cette lecture autobiographique du roman a favorisé l'assimilation entre le village natal du père de Proust et Combray. Et ce qui a permis en 1971, pour le centenaire de la naissance de Proust, de modifier le nom historique du village, un bourg plus qu'un village d'ailleurs, une petite ville, qui est devenue donc Quigné-Combray, ce qui est effectivement un cas unique, en Europe en tout cas. Il paraît qu'il y a des exemples en Amérique du Sud, mais voilà, autour de l'œuvre de Gabriel García Márquez.
Mais on imagine bien beaucoup de villages changer de nom à cette occasion, mais oui. Vous appelez le roman, enfin c'est pas vous, je crois que c'est Thibaudet, le Nil de la littérature. Alors je vais pas vous demander d'expliquer pourquoi, comment le roman en est arrivé à ça, mais est-ce qu'on peut faire un lien aujourd'hui entre roman et pèlerinage littéraire? Est-ce que c'est vraiment le roman est aussi le lieu du pèlerinage littéraire? Peut-être plus que pourrait l'être la poésie, la personnalité réelle des auteurs.
Oui, alors probablement, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des pèlerinages littéraires qui sont associés à des œuvres poétiques, mais ces pèlerinages sont en général n'ont pas fonctionné longtemps. C'est le cas par exemple pour la maison d'Olympio, qui est liée à la vie de Victor Hugo, et puis à certains de ses poèmes comme Tristesse d'Olympio. Il y a eu évidemment des pèlerinages qui sont associés à la poésie épique, mais aucun genre n'a suscité autant de pèlerinages que le roman. En tout cas, dans le monde européen occidental, parce que les choses sont assez différentes au Japon, où, par exemple, le genre du haïku est largement associé à une pratique qui est celle du pèlerinage. Alors, pourquoi le roman a favorisé les pèlerinages? Alors, d'une part, parce que, comme je le disais tout à l'heure, s'est développé un romanesque du quotidien et de proximité. Donc, les lieux sont assez facilement accessibles. Et d'autre part, ça c'est la thèse que développe Orhan Pamuk, l'écrivain, le grand romancier turc, que le roman, il y aurait dans le roman, dans l'expérience que les lecteurs font du roman, une sorte de paradoxe, c'est-à-dire une extraordinaire proximité existentielle avec les personnages dont on épouse l'existence, et en même temps une forme de difficulté à visualiser, enfin une sorte de faiblesse du roman qui serait celle de la fragilité des images. Mentale. Alors on peut y voir une force du roman. C'est par exemple la thèse de romanciers comme Flaubert qui considère qu'il faut cultiver ce vague. Mais Pamuk considère que c'est quelque chose qui crée une forme de déception. Et aller sur les lieux, c'est une façon de réparer cette déception. Ou en tout cas de transiger avec elle. Alors, il peut y avoir d'autres hypothèses. L'hypothèse proustienne, Proust est à la fois un contempteur du pèlerinage littéraire, mais quelqu'un qui l'a beaucoup pratiqué et qui avait une tendance au pèlerinage littéraire qu'il a essayé de contrarier. Et c'est ce désir qu'il signale dans son grand essai sur la lecture de voir le roman continuer. Et donc, une façon de le continuer, c'est d'aller sur les lieux.
Parce que ce qui est très curieux, c'est par exemple le pèlerinage au Toboso, le village qui serait l'endroit où Dulcinée, donc l'amante rêvée de Don Quichotte, aurait vécu. C'est quand même très surprenant. Même aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de lecteurs qui sont allés jusqu'à Toboso, alors qu'à l'époque, c'était vraiment apparemment un pèlerinage extrêmement important pour les gens qui s'intéressaient à la littérature.
Ah, mais ça l'est encore. Il y a une maison de Dulcinée qu'on peut visiter aujourd'hui. Alors moi, j'en ai pas fait l'expérience. J'ai été dans la plupart des lieux que j'évoque, mais j'ai pas été voir la maison de Dulcinée. En revanche, je cite un voyage fait par l'écrivain néerlandais Cees Notboom, qui raconte la fascination qu'il a eue à entrer dans la vraie maison de quelqu'un qui n'a jamais existé. Parce que c'est une maison qui a été associée à Dulcinée assez tôt dans l'histoire. En fait, je raconte dans cet essai que les éditions critiques du XVIIIe siècle comportent des cartes qui ont été faites de façon très sérieuse par les géographes du roi et qui essaient d'assigner les différents lieux du Quichotte à l'espace géographique espagnol, ce qui est pas si facile parce que le monde de Cervantes est un monde qui est moins étroitement accroché au monde réel que le monde de Balzac ou de Flaubert.
Mais peut-être parce que justement, Cervantes est le père du roman. Enfin, Don Quichotte, c'est un peu le premier grand roman de notre tradition européenne. Peut-être ça explique justement le pèlerinage, enfin le succès du pèlerinage en lui-même. Vous écrivez, malheureusement, on pourrait dire, hein, tous les personnages de fiction n'ont pas la chance d'être aussi bien logés que Dulcinée ou Madame Bovary.
C'est vrai, c'est un fait.
Et donc tous les personnages de fiction, malheureusement, ne vont pas forcément provoquer un pèlerinage. Même si, et ça aussi c'est très intéressant dans le livre, Madame Bovary, alors c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il n'y a pas réellement un endroit précis. Mais néanmoins, les fans, comme on dirait aujourd'hui, ont réussi à créer, recréer un peu le
oui,
le
en fait,
de Madame Bovary.
Dès la fin du 19e siècle, l'idée s'est imposée que le roman était la mise en fiction d'un fait divers, ce qui est assez largement attesté, hein, l'affaire de Lamar. Donc le village de Rye a été identifié comme le modèle de Yonville, et on a vu dans le nom du personnage, Bovary, en fait, une façon d'exposer la source du roman. Alors, ce qui est assez fascinant dans ce pèlerinage, alors, de fait, il n'a pas totalement réussi au sens où, contrairement à Hélier Combray, il n'y a pas d'assimilation totale entre Yonville et Rye, il n'y a pas de maison de Madame Bovary comme il y a une maison de Tante Léonie à Hélier Combray, donc la muséification est imparfaite. Mais si l'on se rend à Rye aujourd'hui, il y a des parcours qui sont balisés par le syndicat d'initiative locale. Mais ce qui est vraiment très, très intéressant dans ce pèlerinage, donc qui se met en place dans les années 1890-1900, c'est que les premiers flaubertiens, au sens d'amateurs de Flaubert qui se rendent sur les lieux, peuvent rencontrer les derniers témoins de l'affaire de Lamar. Et donc, en fait, ils rencontrent les personnages du roman. D'autant plus que ces derniers témoins jouent le jeu. Et donc, ils se mettent à raconter leur vie en s'appuyant sur le livre. Et tout le village se met à jouer le jeu, parce que on en tire bénéfice, évidemment, mais aussi parce qu'il y a une sorte de fascination qui se met en place. Donc, aujourd'hui, quand on va à Rye, on n'a pas cette chance. Mais dans les années 1900, on pouvait encore rencontrer la bonne des Bovary ou le conducteur de la diligence. Ce qui a d'ailleurs contribué à valoriser des personnages secondaires du roman, parce qu'on pouvait les rencontrer.
Oui, alors vous parlez du pharmacien, enfin, les gens cherchaient à voir s'il y avait bien une pharmacie. Camille Laurence, on imagine très bien un pèlerinage tout d'un coup presqu'illogien à Hyères, chercher certains jardiniers, chercher. Est-ce que vous allez organiser quelque chose comme ça vous-même? Est-ce que les auteurs organisent parfois eux-mêmes leur propre pèlerinage? Mais oui, Orhan Pamuk, on va y venir. Je le gardais pour la fin. Est-ce que vous voyez un peu comme ça tirer les fils de votre postérité, Camille Laurence?
Là, ça serait difficile de trouver une maison ailleurs qui corresponde. Il faudrait trouver une maison avec une souche.
Voilà, exactement. Et la question, c'est aussi celle du fait divers. Alors, c'est parce que on peut comme ça mettre le doigt sur un événement, sur un lieu précis. Mais ce qui est passionnant, c'est que donc Flaubert lui-même, auteur de Madame Bovary, donc qui deviendra ensuite un lieu de pèlerinage, était lui-même un grand amateur de pèlerinage littéraire, de voyage de toutes sortes, et qui se rend sur la tombe de Chateaubriand lui-même à Saint-Malo, sur le Grand B, alors que Chateaubriand lui-même est encore vivant, ce qui est assez curieux.
Oui, absolument. C'est un pèlerinage dont il y a un récit de voyage, c'est par les champs et par les grèves. C'est un livre écrit à quatre mains avec Maxime Ducamp, et c'est un voyage qui est fait en France par alors qu'il avait le projet d'aller en Orient, de faire un voyage en Orient, et pour des raisons de santé, il se contente de la France à défaut. Et en fait, en se contentant de la France, il fait un voyage dans les terres du roman, hein, puisque en fait il est contraint de se limiter au roman de proximité, puisqu'il ne peut pas, en tout cas à ce moment de sa vie, connaître les lieux lointains de l'orientalisme. Et effectivement, il se rend au Grand B, il se rend aussi à Combourg, et c'est un des premiers pèlerins littéraires de Combourg, à un moment où le pèlerinage de Combourg n'est pas encore consolidé. D'ailleurs, il est difficile de visiter les lieux à l'époque, ils ne sont pas habités, le château est à demi abandonné. Et effectivement, sur la tombe de Chateaubriand au Grand Grand-Bé, il se recueille comme si Chateaubriand était mort, alors qu'il ne mourra que quelques mois ou même quelques années plus tard. Je ne me souviens plus exactement des dates. Et c'est une sorte d'émotion prospective.
Ce qui est assez fascinant, quand même. Enfin, c'est assez rare. Je ne sais pas si, à part ces années-là, c'est assez rare de ce pèlerinage sur un homme encore, sur la tombe d'un homme encore vivant.
C'est une preuve de l'efficacité de la poétique de Chateaubriand de l'outre-tombe. Et donc, de se devenir posthume de son vivant.
Christophe Prado, pour conclure, il faut dire un mot du dernier chapitre de Sur les lieux, qui est un peu un espèce de moment paroxystique en réalité de cette question du pèlerinage littéraire ou de ce que le roman fait un peu à la réalité, qui est le musée de l'innocence d'Orhan Pamuk à Istanbul.
Oui, c'était vraiment une fin presque nécessaire parce que Pamuk, lorsqu'il a eu ce projet de construire un musée en même temps qu'il écrirait le livre qui sera illustré par ce musée. Donc, le musée de l'innocence est à la fois un roman, un magnifique roman d'amour et puis un musée qu'on peut visiter aujourd'hui à Istanbul, qui contient, en fait, tous les objets qui sont décrits dans le roman, tous les objets qui témoignent de l'existence du personnage principal, l'héroïne Fuzun et de sa famille. Et le roman raconte la fabrication, enfin, l'invention du musée. Dans les derniers chapitres, le personnage principal demande à un romancier, Orhan Pamuk, d'écrire l'histoire de sa vie et de contribuer à l'édification de ce musée. Et si l'on se rend aujourd'hui à Istanbul avec le livre entre les mains, il suffit de montrer la page sur laquelle est imprimé le billet d'entrée du musée pour pénétrer gratuitement dans le musée parce que le gardien tamponne l'exemplaire. Alors dans le livre, nous avons reproduit la page dans mon exemplaire personnel avec le musée tamponné. Et c'est cette entreprise, à la fois muséographique et romanesque, est vraiment une réflexion en acte sur la tradition du pèlerinage littéraire, parce que ça, en 2 siècles et demi, une tradition s'est formée. Pamuk explique dans les conférences qu'il a pu prononcer dans les universités américaines que l'idée lui est venue de cette entreprise lorsque, se rendant à Paris pour la première fois, il s'est surpris lui-même à éprouver le désir d'aller visiter plutôt que la Tour Eiffel ou le musée du Louvre, le cimetière du Père Lachaise, pour essayer de trouver l'endroit depuis lequel Rastignac a prononcé son défi célèbre à Paris, à nous deux Paris. Et donc il s'est demandé vraiment quelles étaient les raisons, les ressorts de cette fascination et de ce désir étrange, assez paradoxal, d'aller visiter plutôt les lieux de la fiction plutôt que le plus grand musée du monde ou le monument emblématique de la ville, en tout cas dans un premier temps.
Est-ce que vous connaissez cette histoire, Camille Laurence? Est-ce que vous êtes allée à Istanbul?
Non, mais je rêve d'y aller parce que je trouve que c'est fascinant. Et ça illustre bien là cette frontière poreuse, mouvante entre la fiction et la réalité.
Merci beaucoup Camille Laurence d'être venue
nous
rendre visite. Ta promesse est parue aux éditions Gallimard. Et merci beaucoup Christophe Prado de nous avoir emmenés en voyage jusqu'à Istanbul. Sur les lieux est paru aux éditions Verdier. La conversation littéraire est réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Valérie Lavalard à la technique. La préparation en est assurée par Aurélie Marseille. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. Mais d'ici là, vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster la conversation littéraire sur l'appli de Radio France et même le site web de France Culture. Bonne fin de samedi sur France Culture.